Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette première et dernière émission de décembre 2011, nous nous permettons de revenir juste un instant sur l'ensemble de cette année qui se termine dans quelques jours. Une année fructueuse à plus d'un titre. Rappelez-vous, le 12e séminaire de Ouigimont promu et réalisé par l'Union Spirit Belge et ses partenaires francophones les 4 et 5 juin 2011, lequel était organisé autour du thème central « Le travail des responsables spirites et les 150 ans du livre des médiums ». Le 4e congrès médecine et spiritualité des 29 et 30 octobre 2011 à Paris, le second symposium de médecine et spiritualité au Grand-Duché de Luxembourg, le séminaire de Denicé des 12 et 13 novembre dernier sur les thèmes de la médiumnité, les passes magnétiques, l'obsession et la désobsession, sans oublier la seconde rencontre du 20 novembre 2011 à Liège pour les jeunes et enfants spirites du Bélux, dont le thème était « L'enfant pour l'avenir », ainsi que les diverses conférences réalisées en Belgique et Luxembourg, avec la collaboration des centres, Centre d'études Spirit Allan Kardec de Bruxelles, Groupe Spirit Allan Kardec de Luxembourg et le noyau d'études Camille Flammarion Bruxelles, avec la présence d'ailleurs de prestigieux conférenciers brésiliens. Bref, une année très chargée pour les organisateurs, mais ô combien riche en événements fraternels. Pour tout cela, nous tenions à vous remercier toutes et tous, car votre participation fut très appréciée. Ceci étant dit, voici le déroulé de cette nouvelle émission. En première partie, nous donnerons la parole à notre frère Michel Thomas, avec qui nous commencerons la lecture du ciel et l'enfer, ou la justice divine, selon le spiritisme. Cette lecture sera immédiatement suivie par l'intervention de notre très cher frère Jean-Paul Évrard, président de l'Union Spirit Belge et membre fondateur du mouvement spirit francophone, dont il est d'ailleurs le président en fonction. Aidé pour la traduction simultanée par notre sœur Idylane Bonfin du noyau d'études spirit Camille Flammarion de Bruxelles. Cet exposé, dont le thème étaient quelques informations sur le travail du mouvement spirit francophone, fut présenté par M. Jean-Paul Évrard en guise de clôture du 12e symposium de la francophonie les 4 et 5 juin derniers à Ouigimont, ce qui terminera sur notre antenne la rétrospective de cet important événement pour l'ensemble de la francophonie. En seconde partie, nous retrouverons avec grand plaisir notre très cher frère Michel Buffet, président du Conseil Spirit français, qui répondra aux questions posées par nos auditeurs. Notre émission du jour se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirit francophones, avis et communiqués de nos divers partenaires, ainsi qu'une très courte présentation de livres spirit par notre sœur Arlette Jobé de la Fédération Spirit de la province de Liège, en Belgique. Bonne écoute à toutes et tous et à bientôt. Aujourd'hui, notre frère Michel Thomas nous invite à débuter la lecture du ciel et l'enfer ou de la justice divine selon le spiritisme. Il sera notre lecteur principal pour les mois à venir et c'est donc avec joie que nous lui donnons la parole.
Allan Kardec, le ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme.
Chapitre 1er, l'avenir et le néant. 1. Nous vivons, nous pensons, nous agissons, voilà qui est positif. Nous mourons, ce n'est pas moins certain. Mais en quittant la terre, où allons-nous? Que devenons-nous? Serons-nous mieux ou plus mal? Serons-nous ou ne serons-nous pas? Être ou ne pas être, telle est l'alternative. C'est pour toujours ou pour jamais. C'est tout ou rien. Ou nous vivrons éternellement, ou tout sera fini sans retour. Cela vaut bien la peine d'y penser. Tout homme éprouve le besoin de vivre, de jouir, d'aimer, d'être heureux. Dites à celui qui sait qu'il va mourir, qu'il vivra encore, que son heure est retardée. Dites-lui surtout qu'il sera plus heureux qu'il n'a été, et son cœur va palpiter de joie. Mais à quoi serviraient ces aspirations de bonheur si un souffle peut les faire évanouir? Est-il quelque chose de plus désespérant que cette pensée de la destruction absolue? Affection sainte, intelligence, progrès, savoir laborieusement acquis, tout serait brisé, tout serait perdu. Quelle nécessité de s'efforcer de devenir meilleur, de se contraindre pour réprimer ses passions? de se fatiguer pour meubler son esprit, si l'on n'en doit recueillir aucun fruit, avec cette pensée surtout que demain peut-être, cela ne nous servira plus à rien. S'il en était ainsi, le sort de l'homme serait 100 fois pire que celui de la brute, car la brute vit tout entière dans le présent, dans la satisfaction de ses appétits matériels, sans aspiration vers l'avenir. Une secrète intuition dit que cela n'est pas possible. 2. Par la croyance au néant, l'homme concentre forcément toutes ses pensées sur la vie présente. On ne saurait en effet logiquement se préoccuper d'un avenir que l'on n'attend pas. Cette préoccupation exclusive du présent conduit naturellement à songer à soi avant tout. C'est donc le plus puissant stimulant de l'égoïsme, et l'incrédule est conséquent avec lui-même quand il arrive à cette conclusion. Jouissons pendant que nous y sommes. Jouissons le plus possible, puisque après nous, tout est fini. Jouissons vite, parce que nous ne savons combien cela durera. Et à cet autre, bien autrement grave pour la société. Jouissons quand même, chacun pour soi. Le bonheur, ici-bas, est au plus adroit. Si le respect humain en retient quelques-uns, quels freins peuvent avoir ceux qui ne craignent rien? Ils disent que la loi humaine n'atteint que les maladroits. C'est pourquoi ils appliquent leur génie au moyen de l'esquiver. S'il est une doctrine malsaine et antisociale, c'est assurément celle du néantisme, parce qu'elle rompt les véritables liens de la solidarité et de la fraternité, fondement des rapports sociaux. 3. Supposons que, par une circonstance quelconque, tout un peuple acquiert la certitude que, dans 8 jours, dans 1 mois, dans 1 an si l'on veut, il sera anéanti, que pas un individu ne survivra, qu'il ne restera plus trace de lui-même après la mort. Que fera-t-il pendant ce temps? Travaillera-t-il à son amélioration, à son instruction? Se donnera-t-il de la peine pour vivre? Respectera-t-il les droits, les biens, la vie de son semblable? Se soumettra-t-il aux lois, à une autorité, quelle qu'elle soit, même la plus légitime, l'autorité paternelle? Y aura-t-il pour lui un devoir quelconque? Assurément non. Eh bien, ce qui n'arrive pas en masse, la doctrine du néantisme le réalise chaque jour isolément. Si les conséquences n'en sont pas aussi désastreuses qu'elles pourraient l'être, c'est d'abord parce que chez la plupart des incrédules, il y a plus de forfanterie que de véritable incrédulité, plus de doute que de conviction, et qu'ils ont plus peur du néant qu'ils ne veulent le faire paraître. Le titre d'esprit fort flatte leur amour-propre. En second lieu, que les incrédules absolus sont en infime minorité. Ils subissent malgré eux l'ascendant de l'opinion contraire et sont maintenus par une force matérielle. Mais que l'incrédulité absolue devienne un jour l'opinion de la majorité, la société est en dissolution. C'est à quoi tend la propagation de la doctrine du néantisme. Quelles qu'en soient les conséquences, si le néantisme était une vérité, il faudrait l'accepter. Et ce ne serait ni des systèmes contraires, ni la pensée du mal qui en résulterait, qui pourrait faire qu'elle ne fût pas. Or, il ne faut pas se dissimuler que le scepticisme, le doute, l'indifférence gagnent chaque jour du terrain, malgré les efforts de la religion. Ceci est positif. Si la religion est impuissante contre l'incrédulité, c'est qu'il lui manque quelque chose pour la combattre. De telle sorte que si elle restait dans l'immobilité, en un temps donné, elle serait infailliblement débordée. Ce qui lui manque dans ce siècle de positivisme, où l'on veut comprendre avant de croire, c'est la sanction de ces doctrines par des faits positifs. C'est aussi la concordance de certaines doctrines avec les données positives de la science. Si elle dit blanc et si les faits disent noir, il faut opter entre l'évidence et la foi aveugle. 4. C'est dans cet état des choses que le spiritisme vient opposer une digue à l'envahissement de l'incrédulité, non seulement par le raisonnement, non seulement par la perspective des dangers qu'elle entraîne, mais par les faits matériels, en faisant toucher du doigt et de l'œil l'âme et la vie future. Chacun est libre sans doute dans sa croyance de croire à quelque chose ou de ne croire à rien, mais ceux qui cherchent à faire prévaloir dans l'esprit des masses, de la jeunesse surtout, la négation de l'avenir, en s'appuyant de l'autorité de leur savoir et de l'ascendant de leur position, sèment dans la société des germes de troubles et de dissolution et encourent une grande responsabilité. 5. Il est une autre doctrine qui se défend d'être matérialiste, parce qu'elle admet l'existence d'un principe intelligent en dehors de la matière, c'est celle de l'absorption dans le tout universel. Selon cette doctrine, chaque individu s'assimile à sa naissance une parcelle de ce principe qui constitue son âme et lui donne la vie, l'intelligence et le sentiment. À la mort, cette âme retourne au foyer commun et se perd dans l'infini comme une goutte d'eau dans l'océan. Cette doctrine est sans doute un pas en avant sur le matérialisme pur, puisqu'elle admet quelque chose, tandis que l'autre n'admet rien. Mais les conséquences en sont exactement les mêmes. Que l'homme soit plongé dans le néant ou dans le réservoir commun, c'est tout un pour lui. Si dans le premier cas il est anéanti, dans le second, il perd son individualité. C'est donc comme s'il n'existait pas. Les rapports sociaux n'en sont pas moins à tout jamais rompus. L'essentiel pour lui, c'est la conservation de son moi. Sans cela, que lui importe d'être ou de ne pas être? L'avenir pour lui est toujours nul et la vie présente, la seule chose qui l'intéresse et le préoccupe. Au point de vue de ses conséquences morales, cette doctrine est tout aussi malsaine, tout aussi désespérante, tout aussi excitante de l'égoïsme que le matérialisme proprement dit. 6. On peut en outre y faire l'objection suivante. Toutes les gouttes d'eau puisées dans l'océan se ressemblent et ont des propriétés identiques, comme les parties d'un même tout. Pourquoi les âmes, si elles sont puisées dans le grand océan de l'intelligence universelle, se ressemblent-elles si peu? Pourquoi le génie à côté de la stupidité, les plus sublimes vertus à côté des vices les plus ignobles, la bonté, la douceur, la mansuétude à côté de la méchanceté, de la cruauté et de la barbarie? Comment les parties d'un tout homogène peuvent-elles être aussi différentes les unes des autres? Dira-t-on que c'est l'éducation qui les modifie? Mais alors, d'où viennent les qualités natives, les intelligences précoces, les instincts bons et mauvais, indépendants de toute éducation et souvent si peu en harmonie avec les milieux où ils se développent? L'éducation, sans aucun doute, modifie les qualités intellectuelles et morales de l'âme, mais ici se présente une autre difficulté. Qui donne à l'âme l'éducation pour la faire progresser? D'autres âmes qui, par leur commune origine, ne doivent pas être plus avancées. D'un autre côté, l'âme rentrant dans le tout universel d'où elle était sortie, après avoir progressé pendant la vie, y apporte un élément plus parfait, d'où il suit que ce tout doit, à la longue, se trouver profondément modifié et amélioré. Comment se fait-il qu'il en sorte incessamment des âmes ignorantes et perverses? 7. Dans cette doctrine, la source universelle d'intelligence qui fournit les âmes humaines est indépendante de la divinité. Ce n'est pas précisément le panthéisme. Le panthéisme proprement dit en diffère en ce qu'il considère le principe universel de vie et d'intelligence comme constituant la divinité. Dieu est à la fois esprit et matière. Tous les êtres, tous les corps de la nature composent la divinité, d'où ils sont les molécules et les éléments constitutifs. Dieu est l'ensemble de toutes les intelligences réunies. Chaque individu, étant une partie du tout, est lui-même Dieu. Aucun être supérieur et indépendant ne commande l'ensemble. L'univers est une immense république, sans chef, ou plutôt, où chacun est chef avec pouvoir absolu. 8. À ce système, on peut opposer de nombreuses objections, dont les principales sont celles-ci. La divinité ne pouvant être conçue sans l'infini des perfections, on se demande comment un tout parfait peut être formé de parties si imparfaites et ayant besoin de progresser. Chaque partie étant soumise à la loi du progrès, il en résulte que Dieu lui-même doit progresser. S'il progresse sans cesse, il a dû être, à l'origine des temps, très imparfait. Comment un être imparfait, formé de volonté et d'idées si divergentes, a-t-il pu concevoir les lois si harmonieuses, si admirables d'unité, de sagesse et de prévoyance qui régissent l'univers? Si toutes les âmes sont des portions de la divinité, toutes ont concouru aux lois de la nature. Comment se fait-il qu'elles murmurent sans cesse contre ces lois qui sont leur œuvre? Une théorie ne peut être acceptée comme vraie qu'à la condition de satisfaire la raison et de rendre compte de tous les faits qu'elle embrasse. Si un seul fait vient lui donner un démenti, c'est qu'elle n'est pas dans le vrai absolu. 9. Au point de vue moral, les conséquences sont tout aussi illogiques. C'est d'abord pour les âmes, comme dans le système précédent, l'absorption dans un tout et la perte de l'individualité. Si l'on admet, selon l'opinion de quelques panthéistes, qu'elles conservent leur individualité, Dieu n'a plus de volonté unique, c'est un composé de myriades de volontés divergentes. Puis, chaque âme étant partie intégrante de la divinité, aucune n'est dominée par une puissance supérieure. Elle n'encourt par conséquent aucune responsabilité pour ses actes, bons ou mauvais. Elle n'a nul intérêt à faire le bien et peut faire le mal impunément, puisqu'elle est maîtresse souveraine. 10. Outre que ces systèmes ne se satisfont ni la raison ni les aspirations de l'homme, on s'y heurte, comme on le voit, à des difficultés insurmontables, parce qu'ils sont impuissants à résoudre toutes les questions de fait qu'ils soulèvent. L'homme a donc trois alternatives, le néant, l'absorption ou l'individualité de l'âme avant et après la mort. C'est à cette dernière croyance que nous ramène invinciblement la logique. C'est celle aussi qui a fait le fond de toutes les religions depuis que le monde existe. Si la logique nous conduit à l'individualité de l'âme, elle nous amène aussi à cette autre conséquence, que le sort de chaque âme doit dépendre de ses qualités personnelles, car il serait irrationnel d'admettre que l'âme arriérée du sauvage et celle de l'homme pervers fussent au même niveau que celle du savant et de l'homme de bien. Selon la justice, les âmes doivent avoir la responsabilité de leurs actes, mais pour qu'elles soient responsables, il faut qu'elles soient libres de choisir entre le bien et le mal, sans libre arbitre. Il y a fatalité, et avec la fatalité, il ne saurait y avoir responsabilité. 11. Toutes les religions ont également admis le principe du sort heureux ou malheureux des âmes après la mort, autrement dit, des peines et des jouissances futures qui se résument dans la doctrine du ciel et de l'enfer, que l'on retrouve partout. Mais ce en quoi elles diffèrent essentiellement, c'est sur la nature de ces peines et de ces jouissances, et surtout sur les conditions qui peuvent mériter les unes et les autres. De là des points de foi contradictoires qui ont donné naissance aux différents cultes, et les devoirs particuliers imposés par chacun d'eux pour honorer Dieu, et par ce moyen gagner le ciel et éviter l'enfer. 12. Toutes les religions ont dû à leur origine être en rapport avec le degré de l'avancement moral et intellectuel des hommes. Ceux-ci, trop matériels encore pour comprendre le mérite des choses purement spirituelles, ont fait consister la plupart des devoirs religieux dans l'accomplissement des formes extérieures. Pendant un temps, ces formes ont suffi à leur raison. Plus tard, la lumière se faisant dans leur esprit, ils sentent le vide que les formes laissent derrière elles. Et si la religion ne le comble pas, ils abandonnent la religion et deviennent philosophes. 13. Si la religion, appropriée dans le principe aux connaissances bornées des hommes, avait toujours suivi le mouvement progressif de l'esprit humain, il n'y aurait point d'incrédule, parce qu'il est dans la nature de l'homme d'avoir besoin de croire, et il croira si on lui donne une nourriture spirituelle en harmonie avec ses besoins intellectuels. Il veut savoir d'où il vient et où il va, si on lui montre un but qui ne réponde ni à ses aspirations, ni à l'idée qu'il se fait de Dieu, ni aux données positives que lui fournit la science. Si de plus on lui impose pour l'atteindre des conditions dont sa raison ne lui démontre pas l'utilité, il repousse le tout. Le matérialisme et le panthéisme lui semblent encore plus rationnels, parce que là on discute et l'on raisonne. On raisonne faux, il est vrai, mais il aime encore mieux raisonner faux que de ne pas raisonner du tout. Mais qu'on lui présente un avenir dans des conditions logiques, dignes en tout point de la grandeur, de la justice et de l'infinie bonté de Dieu, et il abandonnera le matérialisme et le panthéisme dont il sent le vide dans son fort intérieur, et qu'il n'avait accepté que faute de mieux. Le spiritisme donne mieux. C'est pourquoi il est accueilli avec empressement par tous ceux que tourmente l'incertitude poignante du doute, et qui ne trouvent ni dans les croyances, ni dans les philosophies vulgaires ce qu'ils cherchent. Il a pour lui la logique du raisonnement et la sanction des faits. C'est pour cela qu'on l'a inutilement combattu. 14. L'homme a instinctivement la croyance en l'avenir, mais n'ayant jusqu'à ce jour aucune base certaine pour le définir, son imagination a enfanté les systèmes qui ont amené la diversité dans les croyances. La doctrine spirite sur l'avenir n'étant point une œuvre d'imagination plus ou moins ingénieusement conçue, mais le résultat de l'observation des faits matériels qui se déroulent aujourd'hui sous nos yeux, elle ralliera, comme elle le fait déjà maintenant, les opinions divergentes ou flottantes, et amènera peu à peu, et par la force des choses, l'unité dans la croyance sur ce point, croyance qui ne sera plus basée sur une hypothèse, mais sur une certitude. L'unification faite en ce qui concerne le sort futur des âmes sera le premier point de rapprochement entre les différents cultes, un pas immense vers la tolérance religieuse d'abord, et plus tard vers la fusion.
Et comme ça, nous passons alors maintenant à l'allocution de Jean-Paul Evrard pour nous donner quelques informations sur le travail du mouvement spirite francophone. E assim nós vamos passar agora para a última alocução do dia, que será feita por Jean-Paul Evrard, presidente da USB, que vai nos falar sobre algumas informações do trabalho realizado pelo movimento espírita francófono.
Rebonjour à toutes et tous.
Je vais essayer
un peu de présenter le mouvement spirituel francophone. Je sais que ça n'intéresse pas directement les autres pays, mais à travers cet exposé, tous les pays d'Europe vont se sentir concernés de par l'esprit.
Vou tentar falar um pouco para vocês sobre o movimento espírita francofônico, mesmo se nem todas as outras delegações vão se sentir diretamente contempladas por esse assunto, mas existem algumas similitudes entre os movimentos pela Europa.
C'est parce que l'état d'esprit que l'on veut dans ce mouvement est un état d'esprit qui doit régner dans tout le mouvement spirituel, quel qu'il soit.
Porque o estado de espírito que eles gostariam de ter no movimento francofônico é o mesmo que deveria reinar em todos os outros movimentos pela Europa.
Et la façon de travailler et les activités que nous réalisons sont aussi à la taille de ce que nous pouvons faire en Europe avec les moyens humains que nous avons.
Et la manière de travailler et le mode de faire est à la hauteur de ce que nous pouvons réaliser avec les moyens que nous avons ici pour toute l'Europe.
Comme j'en parlais ici avec Pékin pendant la pause café, on n'a pas 10 000 membres qui peuvent nous aider comme c'est le cas en Brésil.
Como ele conversava com o PK durante a pausa, nós não temos aqui na Europa uns 10 mil membros como aqueles que nós poderíamos ter, talvez, no Brasil.
Quelques petites considérations. Il faut savoir que dans le monde, il y a à peu près 6 000 langues.
Então, algumas pequenas considerações para começar. É preciso saber, então, que no mundo nós temos aproximadamente 6 mil línguas.
Quand on a invité au Guatemala, au congrès, Edwin, qui est le président, nous expliquait que rien que dans son pays, il y avait 26 dialectes.
Quand ils étaient au congrès au Guatemala, le président expliquait que seulement dans ce pays, il y avait 26 dialectes.
Et on s'aperçoit donc que progressivement, toutes ces langues disparaissent petit à petit.
Nous notons donc que progressivement, toutes ces langues vont disparaître peu à peu.
Pour arriver un jour à une langue universelle, je veux y croire.
Para chegar talvez dia numa língua universal, eu gostaria de acreditar.
Tout comme notre humanité sera reliée universellement vers l'être divin.
Assim como a nossa humanidade toda será ligada diretamente com o ser divino.
Malheureusement, ça prendra encore un certain temps.
Infelizmente, ainda vai levar tempinho para isso.
Il y aura probablement un parallèle entre notre évolution spirituelle et la disparition des langues.
Existira provavelmente uma linha paralela entre a nossa evolução espiritual e o desaparecimento das diversas línguas.
Donc, d'après les statistiques trouvées sur Internet, on s'aperçoit que le français est une des langues les plus parlées dans le monde, si même elle a tendance à perdre du terrain.
De acordo com as estatísticas que encontramos na internet, nós percebemos que o francês é uma das línguas mais faladas do mundo.
E que é aussi une des langues les plus influentes.
E que é também uma das línguas mais influentes.
Il y a un nombre assez important et croissant de francophones dans le monde.
Existe um número importante, grande, e está em crescimento de pessoas que falam francês no mundo.
À l'exception de l'Amérique et de l'Europe.
Exceto na América e na Europa.
Et donc on s'est rendu compte aussi à travers différents contacts et à travers une certaine réalité que le français pourrait être en plein développement et en pleine croissance dans les années à venir en Afrique.
Então nós nos demos conta, através de diversas realidades e diversos contatos que tivemos, que o francês pode estar em pleno desenvolvimento na África.
Parce qu'une bonne part de celui-ci parle français et ils ont encore toute l'éducation à apprendre et les dialectes vont disparaître petit à petit comme nous venons de le voir.
Porque eles ainda, os dialectos estão desaparecendo pouco a pouco, como nós acabamos de falar, e também porque eles ainda têm a possibilidade de ter a educação, estão com a educação em curso.
Como eu disse precedemment, à terme, nous aurons une langue unique.
Provavelmente, então, como eu já disse, ao longo do tempo, nós teremos uma língua única.
Actuellement, la divulgation pour la philosophie doit se faire de manière la plus appropriée et ça semble être sur le base de la langue.
A filosofia, ela deve se basear para a sua divulgação na língua.
Et ce français donc est parmi de nombreux pays où le spiritisme n'est pas encore ou peu connu.
Et le français est parmi de nombreux pays où le spiritisme ainda não é conhecido ou pouco conhecido.
Et on peut faire un parallèle entre le travail qui est entrepris depuis 2 ans à Brasilia.
Nós podemos então fazer um paralelo com o trabalho que foi começado há mais ou menos 2 anos em Brasília.
Qui est un travail de vibration pour essayer d'ouvrir les esprits sans jeu de mots.
Et qui est un travail de vibration pour tenter d'ouvrir les esprits sans faire un jeu de paroles.
À la réalité spirite.
À ouvrir les esprits à la réalité spirite.
Et les derniers événements qui se sont produits ces derniers mois en Afrique du Nord, où les gens veulent plus de liberté et plus de détermination.
E um paralelo então com esses últimos eventos passados na África do Norte, onde as pessoas buscam por mais liberdade de expressão.
E como vocês vão ver, nós somos em fait contactés par des personnes du Maroc, d'Algérie et d'autres pays.
Como vocês vão ver a seguir, nós somos contatados constantemente por pessoas do Marrocos, da Algéria.
Que estão a demonstrar que esse trabalho de vibração.
Que então nos demonstram que esse trabalho de vibração.
Produit ses effets, dont Pascal précédemment a essayé de montrer à travers des recherches scientifiques comment ces effets peuvent se produire dans le monde matériel.
Que nós podemos ver através da palestra de Pascal agora há pouco, que mostra como que nós podemos influenciar esses efeitos no mundo inteiro, através das energias.
Un petit historique, parce que je crois que ça démontre quand même qu'il y a des idées qui sont récurrentes et qui reviennent.
Então, existem algumas ideias que vão e voltam, que elas são recorrentes.
Quando a ideia do fundamento francófono está aparecendo, certains n'y croyaient peut-être pas spécialement.
Quando a ideia de criar um movimento francófono apareceu, alguns não acreditavam especialmente nisso.
En regardant les historiques, nos archives,
mas olhando os arquivos, os históricos,
on s'aperçoit qu'il y a eu une première tentative en 1883.
Nós vemos que houve uma primeira tentativa em 1883.
E depois, uma tentativa similar em 1965.
Uma outra tentativa da mesma coisa em 1965.
E de novo a ideia revient nas années 1980.
E a ideia voltou ainda nos anos 1980.
Tout ça pour finir par aboutir à la création.
Tudo isso para conseguir então criar.
Du mouvement des francophones
en novembre 2008.
En novembre 2008. Pourquoi?
Et pourquoi?
Le mouvement francophone a besoin d'une structure organisée.
O movimento francophone, ele precisa de uma estrutura organizada.
Comme je viens d'expliquer, de plus en plus de pays nous contactent.
Como eu expliquei, muitos países vão nos contactando recentemente.
Et comme en francophonie, comme dans les pays d'Europe du Nord,
et comme nos pays d'Europe du Nord, na francophonie,
nous sommes très peu organisés des événements, contrairement à ce que l'on peut voir au Brésil.
Nós somos muito poucos para organizar eventos, contrariamente ao que nós podemos ver no Brasil.
Ça nous permet de collaborer ensemble, mais qui n'est aussi que la mise en pratique de notre philosophie.
O que nos permite de colaborar juntos e de colocar em prática a nossa filosofia.
Puisque notre philosophie prêche avant tout le partage, la fraternité universelle.
Já que a nossa filosofia prega, antes de tudo, a divisão, a partilha e a fraternidade universal.
On s'est rendu compte aussi à certaines occasions.
Nós nos demos conta também por algumas oportunidades
que des documents qui nous viennent naturellement du Brésil.
Que alguns documentos que chegam diretamente do Brasil
voulaient être traduits par un groupe alors qu'ils avaient déjà été traduits par un autre.
Que esses documentos alguns grupos propunham de traduzir, mas outros grupos já haviam traduzido esses mesmos documentos antes.
Donc, en partageant et en communiquant, on évite des doubles emplois.
Et donc, si nous partilhamos et communiquons, nous évitons ce travail duplo.
Et on peut donc partager le travail avec l'ensemble.
Et podemos dividir ce travail com o todo.
Il en est de même aussi, vous allez voir, avec ce partage, ce travail collectif.
E também nós podemos ver que com essa partilha, com esse trabalho coletivo,
on n'aurait pas pu réaliser les événements si on était resté seul et isolé.
Sem isso, se nós não tivéssemos feito isso, nós não poderíamos ter realizado todos os eventos se nós tivéssemos ficado sozinhos, isolados.
Les buts de l'association sont simples et sont vraiment les fondements même de l'âme spirit.
O objetivo da associação são simples e são os fundamentos mesmo da alma espírita.
C'est pour ça que je dis, ça s'applique à tous les pays d'Europe, voire du monde, à tous les spirites du monde entier.
Et pour ce que je dis, ça s'applique à tous les spirites d'Europe et même, nous pouvons dire, à tout le monde entier.
Donc je reprends ici des termes importants qui sont collaborer, travailler dans l'union. Je reprends donc les thèmes importants, les points importants qui sont collaborer et travailler ensemble, unis.
Alguns termos importantes de trabalho junto, conjunto.
Regrouper aussi, c'est une grande difficulté que nous éprouvons.
Reagrupar é uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos.
Lorsque l'on a recréé le mouvement belge en 1999.
Em 99, quando eles recriaram o movimento belga.
On a retrouvé la même difficulté.
Nós tivemos essa mesma dificuldade.
Chaque groupe fonctionnait dans son coin.
Cada grupo ficava trabalhando no seu canto.
Je ne voyais pas l'intérêt de travailler dans un pays, sur l'ensemble d'un pays.
E ninguém via o interesse de trabalhar no conjunto de um país.
C'est la même chose au niveau francophone.
É a mesma coisa acontece ao nível dos países francofônicos.
Comme au niveau du mouvement international.
Como vocês também podem ver, no mesmo nível internacional.
Il faut arriver à faire comprendre aux personnes que nous devons travailler ensemble parce que ça fait partie intégrante de l'âme spirit.
É preciso fazer entender as pessoas que nós temos que trabalhar junto porque isso faz parte da filosofia espírita.
On a établi aussi une charte éthique.
Foi estabelecida também uma carta ética.
C'est une charte morale, qui est toute logique.
Que é também uma carta moral, lógico, toda lógica.
Lorsque j'ai fait connaissance avec la philosophie spirite à Liège il y a de nombreuses années.
Há muitos anos atrás, quando eu conheci a filosofia espírita em Liège.
J'ai eu l'occasion d'assister à des conseils d'administration.
Eu pude assistir a alguns conselhos de administração.
On parlait plus de problèmes matériels.
Onde nós falávamos mais dos problemas materiais.
Où il y avait plus des avis opposés aux autres.
Onde havia muitas opiniões opostas umas às outras.
Que des activités et des buts spirituels et un langage commun.
Que de fato as atividades de objetivo espiritual e de objetivo comum.
Petit à petit, les choses ont changé.
Aos poucos, essas coisas foram mudando.
On est arrivé à une situation où, lorsque l'on prend des décisions,
nós chegamos a uma situação que, quando nós tomamos uma decisão,
il n'y a même pas besoin de voter.
Já não tem mais nem necessidade de votar.
C'est après échange, discussion.
É depois de uma troca, de uma discussão.
Et un avis commun en ressort.
E ponto de vista comum que aparece.
Si même parfois il y a des petites différences.
E assim mesmo, às vezes, existem algumas pequenas diferenças.
Donc, cette façon de travailler, c'est aussi cette façon-là qu'on a voulu reproduire au sein du mouvement francophone.
Então, essa maneira de trabalhar foi a maneira que nós tentamos implantar também no movimento francophone.
Pour mettre fin aux individualités.
Para trabalhar com essas nossas individualidades.
Et aux intérêts personnels de toutes sortes.
E os interesses pessoais de todos os tipos.
Donc, le fondement, c'est être honnête, bienveillant, loyal, conciliant.
O fundamento é ser honesto,
leal.
Travailler dans un esprit d'équipe. Travailler dans un esprit d'équipe.
Trabalhar em espírito de equipe.
Réaliser des objectifs communs.
Realizar objetivos comuns.
Partager les documents.
Dividir os documentos.
Se rapprocher, s'unir, réaliser des rencontres comme celle-ci.
Se aproximar, s'unir, fazer eventos como esse aqui.
Ce ne sont jamais que des choses tout à fait logiques.
São só coisas bem lógicas.
J'ai eu l'occasion de voir pour des statuts d'associations qui ne font pas actuellement partie du mouvement belge.
Eu tive a ocasião de ver os estatutos de algumas organizações que não são necessariamente belgas.
De l'Union belge.
Da União Belga.
Que são disponíveis sur internet, de voir dans ces statuts des articles.
Divers de ces statuts, alguns artigos
qui sont tellement restrictifs,
algumas cláusulas que são tão restritivas,
qu'on voit au travers de ceux-ci les distorsions qui sont au sein de ces groupes.
Que a gente pode ver por esses artigos as dissensões que existem nesses próprios grupos.
Et quand on en arrive à devoir mettre tout noir sur blanc et dans des statuts pour gérer une association,
et quand se chega ao ponto de ter que colocar tudo no papel para poder administrar essas associações,
ça n'a plus rien à voir avec une institution spirituelle.
Isso não tem muito a ver mais com a instituição espírita.
Como je l'expliquei au début, de plus en plus de pays entrent en contact avec nous.
Como eu expliquei no início, são mais e mais países que entram em contato conosco.
Il y a les pays d'Europe, naturellement, francophones.
Da Europa, francofônicos.
Et aussi le Canada à travers le Québec.
Québec, le Canadá.
Mais aussi, comme vous pouvez le voir, une bonne partie de l'Afrique du Nord.
Vous pouvez voir aussi une bonne partie de l'Afrique du Nord.
Avec le Congo.
Mais le Congo.
Et aussi le Cameroun et le Togo. Je n'ai pas repris.
Et Cameroun et Togo qui sont faisant dans cette liste.
Et Haïti.
Et Haïti et le Caribe.
Donc, vu que nous sommes peu de personnes pour pouvoir travailler.
Como somos poucas pessoas realmente trabalhadoras no momento,
nous focalizamos sobre as atividades precisas.
Estamos nos focalizando em ações bem definidas.
Vous pouvez voir que nous allons organiser, nous organisons des congrès de médecine et spiritualité.
Como vocês podem ver, organizamos congressos de medicina e espiritualidade.
Symposium.
Simpósio.
Campanha sobre o suicídio.
Campanha sobre o suicídio, que foi evocada aqui.
Soutien ao grupo, principalmente no Congo, que é o mais estruturado.
Apoio a grupos, por exemplo, do Congo, que é o, por enquanto, mais estruturado.
Graças a esse trabalho coletivo, nós podemos colocar a Rádio Kardec, na Enciclopédia Espírita.
Fizemos Rádio Kardec, na Enciclopédia Espírita.
Edição de livros, de brochures.
Edição de livros, de folhetos.
E a preparação do Congo Espírita. Mais qui ne sera pas africain, le terme de manage choisi, ce sera une rencontre fraternelle au Congo.
Et la préparation d'un premier rencontre fraternelle au Congo.
Et donc tout ça est possible parce que nous travaillons en équipe.
Et ça seulement est possible parce que nous travaillons en équipe.
Et donc, nous aurons ici à Paris, au mois d'octobre, le 4e congrès.
Teremos em Paris, 29 e 30 de outubro, o 4º Congresso Francofônico da Medicina e Espiritualidade. Medicina e Espiritualidade. Um novo paradigma para a saúde.
Symposium dont certains participent ici pour la première fois.
Et alguns de vocês participam aqui a primeira vez.
Et qui a encore battu le record. En 2009, nous avions
100. Batemos o recorde.
En 2009, nous avions 110 inscriptions.
Em 2009, tinha 110 inscritos.
Et cette année, nous en avons eu 125 inscrits pour le samedi.
E esse ano tivemos 125 no sábado.
Nous avions dû refuser des inscriptions même par manque de place.
E tivemos que recusar algumas inscrições porque não tinha mais o tábado lotado.
J'ai même transformé ma maison en terrain de camping.
E a casa dele se transformou em terreno de camping.
Sur base aussi de ce qui est réalisé au Brésil.
Na base do que está sendo realizado no Brasil.
Parce que la codification est en France, mais tout ce qui nous vient aujourd'hui de nouveau vient du Brésil.
A codificação ocorreu na França, mas hoje em dia é o inverso, os desenvolvimentos estão maioria feito no Brasil e estão voltando agora para cá.
Então, que eu me suis inspiré des petites brochures disponibles par la FEB.
Inspiramos dos folhetos que foram editados pela FEB no mesmo assunto.
Donc, une est sur le suicide, l'autre sur l'avortement, l'euthanasie, l'autre sur la paix.
Tem uma sobre o suicídio, outra o aborto, outra sobre a eutanásia, outra sobre a paz.
E como Michel Buffet l'a montré hier, le suicide est vraiment un problème qui touche nos pays modernes.
Michel Buffet mostrou ontem que o suicídio é um problema sério nos nossos países modernos.
C'est pour ça que cette année, une campagne contre le suicide.
É por isso que nesse ano fazemos uma campanha para a prevenção do suicídio.
E as conferências vão déjà être organisées, mas vão être aussi organisées no deuxième trimestre.
Já foram feitas algumas conferências e outras vão ocorrer no segundo trimestre e tem um pequeno folheto que foi feito em francês.
Eu se estudei por ceux qui le souhaitent.
Que está à disposição de todos aqueles que desejam.
Ici, nous avons la chance de voir notre frère Blaise Benzele.
Isso é uma foto do nosso irmão Blaise Benzele, do Congo.
E nos avons contacté suite au premier congrès de médecine qui a eu lieu à Liège en 2008.
Ele nos contactou a primeira vez em 2008, na ocasião do Congresso Medicina e Espiritualidade, o primeiro.
E donc là, il a formé un petit groupe.
Ele formou um pequeno grupo.
J'ai pris les plus belles photos.
Peguei as fotos mais bonitas.
Mais lorsque vous voyez l'environnement dans lequel ils se situent, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas les facilités que l'on a.
Mas quando vocês veem onde eles trabalham, vocês podem ver que eles não têm as mesmas facilidades que nós temos.
Et la dernière fois que j'ai eu au téléphone, ça faisait 15 jours qu'il n'avait plus d'électricité.
A última vez que eu falei com ele no telefone, faz 15 dias que ele não tinha mais luz.
Il devait aller à Kinshasa pour recharger son GSM et son ordinateur.
Ele teve que viajar até a capital lá para recarregar as baterias do computador e do celular dele.
Et vous remercie tous son bonjour.
E ele manda um forte abraço para todos vocês.
Ici, c'est l'encyclopédie spirituelle.
Aqui em cima vocês podem ver a página inicial da Enciclopédia Espírita, o website.
On peut télécharger un ensemble de livres, documents et photos.
Onde se podem fazer download de todo um conjunto de livros, de documentos e de fotos.
Documents qui bien souvent ne sont plus édités parce que si c'est pas vendu, c'est pas édité.
Muitos deles, que na maioria deles, que não estão sendo mais editados hoje, porque não estão vendendo tanto.
E que são digitalizados por benevolos e gratuitamente à disposição sur les sites.
Que foram digitalizados, escaneados por benevolos e estão à disposição gratuitamente nesse website. Tem, parece que, 300 livros, 500 revistas espíritas antigas e algumas centenas também de fotos sobre o espiritismo.
Continua a provisionar.
E cada dia que passa tem mais coisas que vão se acrescentando.
Mas começamos aussi a editar livros.
Começamos também a editar alguns livros.
Avec l'aide, la collaboration et l'acceptation des auteurs qui nous donnent l'autorisation de faire.
Com a colaboração de alguns autores que dão uma autorização para tanto.
Une petite brochure qui vient d'être ici éditée dernièrement pour comprendre le spiritisme.
Então, foi um livrinho que se chama Comprendre, Entender o Espiritismo. Pequenininho, com linguagem bem moderna.
une chronique d'un sang fluide, donc qui est une histoire vraie d'un centre vécu au Brésil et qui a été attaqué par le gaz astral.
Et le second, qui est la traduction par français, qui a acontecé dans la casa espírita, qui conta o ataque de um centro espírita pelos espíritos das trevas.
Alors ici, donc ce ne sera pas le congrès spirit africain.
Aqui podem ver, não vai ser um congresso espírita africano.
Mais dès qu'on a lancé l'idée d'aller faire une rencontre fraternelle en Afrique,
mas quando lançamos a ideia de fazer um encontro fraterno na África,
on a notre ami Driss du Maroc,
nosso amigo, nosso irmão Driss Kawati do Marrocos,
qui aime bien l'art et les dessins,
que tem jeito para arte e para desenhos,
qui a directement fait une affiche comme ça et qui nous l'a envoyé.
Imediatamente, spontaneamente, fez cartaz e enviou para a gente.
Et donc, ce serait une rencontre fraternelle qui se déroulera au Congo.
Seria um encontro fraternal que seria no Congo.
Parce que malheureusement, dans les pays d'Afrique du Nord,
okay. Infelizmente, nos países da África do Norte,
il est très difficile de parler ouvertement de la philosophie spirit.
É muito difícil, às vezes proibido, de falar em filosofia espírita.
Parce que les esprits ne sont pas encore ouverts à ces connaissances.
Os espíritos e as leis locais não estão ainda abertos para esse tipo de conhecimento.
E, par exemple, notre ami Driss,
por exemplo, nosso amigo Driss,
ne veut pas qu'on donne son adresse internet à d'autres marocains.
Ele não quer que dê o endereço internet dele para outros do mesmo país.
Parce qu'il aurait peur d'avoir des ennuis, voire plus.
Tem medo de ter que aconteçam problemas e coisas piores.
J'ai oublié de dire que notre ami Blaise a déjà réussi à faire aussi une conférence et une émission télévisée.
Notre ami Blaise du Congo a réussi à faire une conférence et aussi a participé d'une émission de la télévision locale.
Je vous demanderais de penser particulièrement à lui parce que ce n'est pas facile. Même là-bas, où ils ont une ouverture sur les esprits, pas toujours bien dirigée.
E eu solicito a vocês também mandarem vibrações para ele lá, porque mesmo que lá no Congo existe essa abertura à noção do espírito, que nem sempre é muito bem dirigida,
eu rencontro aussi des difficultés liées à des mouvements religieux qui s'y trouvent déjà et à certaines formes de pratiques et superstitions.
Ele encontra grandes dificuldades devido a outros movimentos religiosos que já estão se implantando lá também e também a outras práticas que são mal dirigidas.
Au niveau de l'organisation, il y a différents schémas qui ont été approchés pour une organisation en différents départements.
Houve uma tentativa de organizar alguns departamentos.
Vu les ressources humaines actuelles, nous sommes focalisés sur la réalisation de projets.
Mas, visto a escassez de trabalhadores no momento, focalizamos na realização de projetos.
Là, on sait que pour telle activité, on a besoin de telle personne et on dispose des personnes pour le faire.
Onde a gente pode ver que para uma devida atividade precisamos de tal tipo de pessoa e sabemos que podemos contar com essas pessoas para realizar um projeto.
Então, por tudo, on a besoin de suporte.
E para isso, claro, como para as outras coisas, precisamos de ajuda e de um suporte.
C'est pour ça qu'on a construit. C'est pour ça qu'on a mis sur les différents sites internet un appel bénévole.
Por isso que colocamos no nosso website um apelo a benévolos, a voluntários. As pessoas interessadas podem se inscrever e descrever o que elas querem, onde elas podem ajudar.
E vão trouver sur internet la même chose que le formulaire papier que est ici à Ranteil.
E podem encontrar no website a mesma coisa que está no papel aqui na entrada.
Vous pouvez naturellement remplir et mettre dans la boîte à sortie.
Et vocês podem encher e colocar na caixinha na saída.
Et qui demande simplement, disons,
vous mettez sur le site,
dans quel domaine vous pourriez éventuellement porter votre aide.
Em qual área vocês poderiam eventualmente contribuir.
Ça peut être la logistique, l'informatique, ou les langues.
Logística, informática, línguas.
Ça peut être occasionnel ou régulier.
Pode ser ocasional ou mais regular.
Mais ça peut être aussi au niveau local, au niveau national, voire au niveau international.
Pode ser também a nível local, nacional ou até internacional.
En conclusion,
concluindo,
la devise de la Belgique, c'est l'union fait la force.
A divisa, divisa da Bélgica é a união faz a força.
Que l'on met en pratique depuis un an,
que colocamos em prática esse último ano, por sinal.
Parce que pour ceux qui ne le savent pas, ça fait un an que le Nord et le Sud ne sont pas d'accord et là, depuis un an, on n'a pas de gouvernement.
Porque para aqueles que não sabem, faz agora um ano que a Bélgica está dividida entre o Norte e o Sul e não tem governo. Não passamos como na Bélgica.
On a besoin de bénévoles.
Precisamos de voluntários.
Dieu n'a pas tracé les frontières.
Deus não colocou fronteiras na terra.
Devemos trabalhar ensemble.
Devemos então trabalhar juntos.
E como eu disse encore à Pekka ici tout à l'heure.
E como eu acabei de falar com Pekka pouco tempo atrás.
Il vaut mieux quelques personnes qui sont unies dans la paix et dans et des personnes de bonne volonté.
É melhor poucas pessoas, mas que estão unidas na boa vontade,
que beaucoup qui essayent de faire de l'individualisme ou du séparatisme.
Do que muitos que font problème de personnalisme ou de travailler séparément.
Et alors, l'amour est plus fort que tout.
Mas o amor é mais forte do que tudo.
J'espère que cette fois-ci ça va marcher parce que j'ai essayé lors de ma présentation au congrès de Valencia, ça n'a pas fonctionné.
J'espère que cette fois-ci ça va fonctionner parce que j'ai tenté de faire une Valencia et non fonctionné.
À Denise, j'ai aussi essayé et ça n'a pas fonctionné.
Et Denise, récemment, j'ai tenté et também non fonctionné.
Et la troisième fois, je pense que c'est la bonne.
Et je pense que maintenant, la troisième tentative va être la bonne.
Et donc, ceux qui ne le savent pas, il y a un chanteur qui s'appelle Jacques Brel.
Pour ceux qui ne le savent, il y a un chanteur appelé Jacques Brel.
Et qui apparemment avait été classifié comme athée,
qui apparemment tinha sido classificado como ateu.
Mais son épouse a témoigné un jour à la télévision.
Mas a esposa dele testemunhou um dia na TV.
Qui était venu se communiquer et qui croyait en Dieu.
Que veio se comunicar e que ele estava crendo em Deus.
Et quand on écoute les paroles de cette chanson,
quando escutamos as letras dessa canção,
si même il était ou se croyait ou on le disait athée,
mesmo que pensávamos que era ateu,
eh bien, il était plus fini, peut-être certain.
Talvez ele estava mais espírita do que alguns.
On va croiser les doigts. À s'offrir, à partager, au jour du grand voyage,
quel
grand
amour,
quand on a l'amour,
l'amour,
toi et moi, pour que la joie,
chaque
jour, quand on a l'amour,
on vit
nos promesses. Soleil, La troisième fois était la bonne. Mais je ne sais pas si l'émotion peut passer dans une langue qu'on ne connaît pas spécifiquement.
Non, je ne sais pas si l'émotion conseguiu passer dans une langue que je ne connais pas bien.
Mais moi, ça me touche.
Eu fico tocado por essa atenção.
Alors, je vais terminer par quelques considérations.
Vou terminar com algumas considerações.
Peut-on imaginer un seul instant qu'un spirit ou un groupe qui se dit spirit puisse s'isoler et ignorer ses frères?
Podemos imaginar un seul instant que un espírita, un groupe espírita, possa se isolar dos irmãos dele?
Peut-on imaginer un seul instant être crédible dans notre travail de divulgation?
Podemos imaginar un seul instant de ter crédibilité dans notre travail de divulgação?
Si nous ne montrons pas que nous sommes unis pour une même cause.
Se nós não mostramos que estamos unidos para uma mesma causa.
Peut-on imaginer?
Podemos imaginar?
Connaissant les enseignements que renferme la philosophie spirit.
Conhecendo os ensinos da filosofia espírita.
Que notre Père puisse faire la moindre différence entre l'homme entre nous.
Que nosso Pai possa fazer a menor diferença entre um e outro de nós.
Peut-on imaginer arriver un jour à l'apogée de la connaissance de l'amour?
Podemos imaginar chegar um dia ao apogeu do conhecimento do amor?
Si nous n'avons pas l'amour inconditionnel envers notre prochain.
Si nós não temos em nós um amor incondicional para com o próximo.
Poser ces questions, c'est y répondre.
Colocar essas perguntas é respondê-las.
Jésus ne nous a-t-il pas demandé de d'abord nous réconcilier avec notre frère?
Jesus não nos pediu de primeiro nos reconciliar com o nosso irmão?
Mes amis, tous ici présents et à venir.
Meus amigos, todos aqui presentes e futuros.
Je vous demande de mettre en avant et surtout de pratiquer notre devise.
Peço a vocês de colocar à frente e, além de tudo, de colocar em prática a nossa divisa.
Fora da charité, não há salvação.
Fora da caridade, não há salvação.
Merci.
Merci Gérard. Chers auditeurs de Radio Kardec, bonjour. Vous avez bien voulu encore nous poser des questions et je vais aujourd'hui, comme à l'accoutumée, tenter d'y répondre. Un auditeur nous demande, vu que l'épreuve de pauvreté est majoritaire sur cette planète Terre, quelles sont ses multiples raisons? Quels sont ses multiples buts? Pourquoi ce choix majoritaire d'incarnation par les esprits sur cette planète? La planète Terre est un monde d'expiation de nos erreurs passées. La souffrance en fait partie, qu'elle soit physique ou morale. Les conditions de vie sur notre Terre sont aussi le résultat de l'orgueil et de l'égoïsme de l'homme. Si l'homme savait se contenter du nécessaire et partager les biens qui sont produits dans le respect des lois divines, tout cela changerait dans le sens de la fraternité et de la charité. La loi de causalité nous oblige aux réparations envers nos frères que nous avons négligés ou persécutés dans des vies passées, d'où l'obligation de se retrouver tant que l'amour du prochain ne se manifeste pas. Plus que la pauvreté matérielle sur cette planète, c'est la pauvreté morale et spirituelle qui entrave la venue d'un monde meilleur. Il appartient aux hommes de devenir des hommes de bien pour que plus de justice et de progrès et de bonheur règnent ici-bas. La question 715 du livre des Esprits demande « Comment l'homme peut-il connaître la limite du nécessaire ?» Réponse « Le sage la connaît par intuition. Beaucoup la connaissent par expérience à leurs dépens. » Question 716. La nature n'a-t-elle pas tracé la limite de nos besoins par notre organisation? Réponse. Oui, mais l'homme est insatiable.
La nature a tracé la limite de ses besoins par son organisation, mais les vices ont altéré sa constitution et créé pour lui des besoins qui ne sont pas des besoins réels. Question 717. Que penser de ceux qui accaparent les biens de la terre pour se procurer le superflu au préjudice de ceux qui manquent du nécessaire? Ils méconnaissent la loi de Dieu et auront à répondre des privations qu'ils auront fait endurer. La limite du nécessaire et du superflu n'a rien d'absolu. La civilisation a créé des nécessités que n'a pas la sauvagerie. Et les esprits qui ont dicté ces préceptes ne prétendent pas que l'homme civilisé doive vivre comme le sauvage. Tout est relatif. C'est à la raison à faire la part de chaque chose. La civilisation développe le sens moral et en même temps le sentiment de charité qui porte les hommes à se prêter un mutuel appui. Ceux qui vivent aux dépens des privations des autres exploitent les bienfaits de la civilisation à leur profit. Ils n'ont de la civilisation que le vernis, comme il y a des gens qui n'en ont de la religion que le masque. Question 931. Pourquoi dans la société les classes souffrantes sont-elles plus nombreuses que les classes heureuses? Aucune n'est parfaitement heureuse, et ce que l'on croit le bonheur cache souvent de poignants chagrins. La souffrance est partout. Cependant, pour répondre à ta pensée, je dirais que les classes que tu appelles souffrantes sont plus nombreuses, parce que la terre est un lieu d'expiation. Quand l'homme en aura fait le séjour du bien et des bons esprits, il n'y aura plus de malheureux, et elle sera pour lui le paradis terrestre. Une autre question nous est posée. Je travaille depuis plusieurs années avec des personnes handicapées mentales, attardées, trisomiques ou encore autistes. Pensez-vous que cet handicapé expire un mauvais karma? Ou ne subissent-ils une épreuve quelconque? Que pensez-vous que Dieu attend de moi dans ce travail? Je répondrai, il attend de vous, comme de chacun de nous, d'assister nos frères en souffrance. Le handicap trouve sa source dans l'acceptation de réparation du passé ou dans le fait de subir une épreuve pour son propre progrès. Là encore, le livre des esprits nous dit à la question 399. Les vicissitudes de la vie corporelle étant à la fois une expiation pour les fautes passées et des épreuves pour l'avenir, s'ensuit-il que, de la nature de ces vicissitudes, on puisse en induire le genre de l'existence antérieure? La réponse, très souvent, puisque chacun est puni par où il a péché. Cependant, il ne faudrait pas en faire une règle absolue. Les tendances instinctives sont un indice plus certain, car les épreuves que subit l'esprit sont autant pour l'avenir que pour le passé. La question 983. L'esprit qui expie ses fautes dans une nouvelle existence n'a-t-il pas de souffrance matérielle, et dès lors est-il exact de dire qu'après la mort, l'âme n'a que des souffrances morales? Il est bien vrai que lorsque l'âme est réincarnée, les tribulations de la vie sont pour elle une souffrance. Mais il n'y a que le corps qui souffre matériellement. Vous dites souvent que celui qui est mort n'a plus à souffrir. Cela n'est pas toujours vrai. Comme esprit, il n'a plus de douleurs physiques, mais selon les fautes qu'il a commises, il peut avoir des douleurs morales plus cuisantes. Et dans une nouvelle existence, il peut être encore plus malheureux. Le mauvais riche y demandera l'aumône et sera en proie à toutes les privations de la misère, l'orgueilleux à toutes les humiliations, celui qui abuse de son autorité et traite ses subordonnés avec mépris et dureté, y sera forcé d'obéir à un maître plus dur qu'il ne l'a été. Toutes les peines et les tribulations de la vie sont l'expiation des fautes d'une autre existence, lorsqu'elles ne sont pas la conséquence des fautes de la vie actuelle. Quand vous serez sorti d'ici, vous comprendrez. L'homme qui se croit heureux sur la terre parce qu'il peut satisfaire ses passions est celui qui fait le moins d'efforts pour s'améliorer. Il expie souvent, dès cette vie, ce bonheur éphémère. Mais il expiera certainement dans une autre existence tout aussi matérielle. Je demanderai maintenant, au vu des souffrances de toute nature qui nous entourent sur cette planète, ne sommes-nous pas tous des handicapés, chacun à sa manière, en souffrance physique ou morale? Dieu attend de vous comme de nous tous l'amour du prochain et la charité, car hors d'elle, point de salut. Voyons maintenant cette nouvelle question. La Vierge Marie bénéficie d'un culte important dans la religion catholique. Quel est, à ce sujet, le point de vue spirite? Celle qu'on appelle Marie, Mère de Jésus, est un esprit élevé, qui a accepté la mission de préparer la venue de Jésus. En ce sens, elle a participé à l'incarnation du médium de Dieu. Toutes les religions issues du christianisme ne lui donnent pas la même place et ne la vénèrent pas de même. Pour nous spirites, il s'agit d'un esprit élevé qui avait accepté cette mission en ayant les qualités nécessaires. Une nouvelle question. Je suis en surpoids car la nourriture me sert d'antistress. Dans la mesure où j'ai la chance d'avoir une conscience de beaucoup de choses, je sais qu'il est exigé de moi plus que de ceux qui n'ont pas encore compris tout cela. Donc, le mal que je fais au corps qui m'est confié est-il une faute très grave qui me sera reprochée lourdement après? Je crains, par exemple, de devoir accepter de me réincarner pour souffrir de la faim avec ma famille toute ma vie dans un pays pauvre. Le corps qui nous est donné doit être l'objet d'attention pour remplir le travail que nous avons à faire durant cette incarnation. Diminuer la durée de vie de ce corps par des excès nous en rend responsables, et des conséquences douloureuses vont nous attendre, et souvent dès cette incarnation, par des maladies générées par nos excès. Il ne faut pas oublier que ces excès laissent des marques dans notre périsprit qui peuvent se retrouver dans notre prochain corps lors de la réincarnation. L'esprit André Louis, dans le livre Nos Solars, psychographié par le médium Chico Xavier, nous décrit très bien son arrivée dans le monde spirituel après avoir connu les excès qui avaient porté préjudice à son corps. Il faudrait traiter votre stress d'une autre manière, car il peut lui-même avoir d'autres conséquences sur votre santé. La prière et la foi et la volonté aident beaucoup dans ce domaine. Chers auditeurs de Radio Kardec, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine émission pour de nouvelles réponses.
Nous voici arrivés à la séquence réservée aux communiqués de nos partenaires. Aujourd'hui, il s'agit d'un communiqué de l'association Cœur SDF Liège, relayé par le Centre d'études spirites Allan Kardec de Bruxelles. L'hiver approche, l'hiver c'est signe de froid et de beaucoup de souffrance pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un foyer et de rester bien au chaud. Alors, pensons à eux, avec beaucoup de tendresse, et faisons chacun de nous un petit geste simple, mais qui compte beaucoup pour eux. L'association Cœur SDF à Liège distribue chaque samedi de la soupe aux plus démunis, et ils veulent aider encore plus en distribuant des chaussettes, bonnets, écharpes, gants et couvertures. C'est un travail magnifique, mais qui a besoin de l'aide de tous pour continuer. Si vous voulez aider, prenez contact avec notre frère Martial de la Fédération Spirite de la province de Liège en formant depuis la Belgique le 0493 18 51 95, ou avec Sarah au 0494 15 05 24, ou mieux encore par courriel à l'adresse suivante coeurdf@gmail.com. Pour Liège, ou si vous habitez Bruxelles, apportez des chaussettes, bonnets, écharpes, gants, couvertures au siège social du CESAC à la rue Louis App, 134 à Etterbeek, les samedis de 17h30 à 18h20. Merci de votre participation. Nous voici arrivés à l'agenda des activités en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg. Période de fin d'année oblige, la seconde quinzaine de décembre est généralement synonyme de vacances d'hiver et de fermeture des centres spirites francophones. Aucune activité n'est prévue. Radio Kardec ne peut échapper à cette tradition de Noël, repos bien mérité que nous mettrons à profit pour la rentrée 2012 qui, en ce qui nous concerne, s'effectuera le 9 janvier. Si vous avez des activités déjà programmées pour 2012 dont vous voulez faire la promotion, n'hésitez surtout pas, nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous nous ferons un plaisir d'informer nos auditeurs. De plus, nous incitons chacun et chacune à participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France ou le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg, ou tout simplement consulter notre site internet. Mais dans l'immédiat, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année et que la joie soit dans vos cœurs. Nous voici arrivés à la séquence que nous réservons à la présentation de livres Spirit, dont la plupart sont ou seront bientôt disponibles auprès des associations nationales. Le Conseil Spirit français pour la France, l'Union Spirit belge, ou via la Fédération Spirit de la province de Liège en son nouveau foyer Spiritualis. Pour obtenir la liste des livres en stock, merci de bien vouloir contacter les associations via courriel. En Belgique, vous pouvez prendre contact via l'adresse suivante fspl@spiritsanss.be ou par voie téléphonique en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76. Avec le mouvement Spirit francophone, le Conseil Spirit français va soutenir une campagne de diffusion et d'abonnement à la revue Spirit, aujourd'hui reprise dans la rédaction de ses articles pour en faire un véritable outil d'information et d'études actualisées. Nous invitons donc les centres à promouvoir cette initiative auprès de leurs adhérents, dans notre devoir de pérenniser cette revue créée, pour rappel, par Allan Kardec lui-même. L'abonnement de 4 numéros pour un an sera de 20 euros. Merci de vous adresser à Monsieur Jean-Pierre Pipineau, 9 chemin du Pinge à 47 520, le passage à Agen. Bonjour Arlette.
Bonjour Gérard. Voici la présentation de deux livres. Le Consolateur, écrit par Francisco Candido Xavier, dicté par l'Esprit Emmanuel. Sous la forme de questions et réponses, Emmanuel fait de ce livre un véritable cours d'enseignement spirit. Il traite de sujets toujours sollicités par l'intelligence et l'intérêt de ceux qui perçoivent dans le spiritisme le consolateur promis par Jésus. À travers des thèmes qui s'inscrivent sous le triple aspect de la doctrine spirit, science, philosophie, religion, il nous apporte de précieuses explications sur les sciences fondamentales, le déterminisme et le libre arbitre, les facteurs sociaux, l'éducation sexuelle, la médiumnité et d'autres d'une valeur doctrinaire indubitable. Ces concepts se revêtent de sagesse et portent la marque du bon sens et de l'autorité morale de l'auteur spirituel. Le deuxième livre a été écrit par Michael Ponsardin. Le titre, c'est Chico Xavier, l'homme et le médium. La préoccupation essentielle du spiritisme brésilien n'est pas d'apporter des preuves de la réalité de la communication avec les esprits, mais de mettre la pratique médiumnique au service du bien-être de l'homme. Rien ne peut mieux illustrer les différents aspects de la culture spirite brésilienne que la vie de Chico Xavier. Respecté et apprécié par toutes les communautés religieuses de son pays, considéré par certains comme un saint, il a incarné toutes les vertus chrétiennes et en particulier l'humilité. Véritable icône du spiritisme brésilien, il a été le médium le plus complet et le plus prolifique de sa génération. À la lecture de ce livre, consacré à la biographie de Chico Xavier, vous comprendrez pourquoi cet homme et ce médium, par sa vie et par son œuvre, a marqué profondément et durablement le spiritisme. Voilà, Gérard, ceci termine les deux présentations.
Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.